Chapitre 52. Palais d'Ishak Pacha, Nakhitchevan. De nombreuses femmes s'occupèrent d'Idil. Certaines l'emmenèrent au sérail et lui firent prendre un bain. D'autres l'enduisirent d'huile et de parfums aux senteurs de magnolia, la coiffèrent longuement avec des peignes de corne. Son frère lui avait parlé du sérail de Topkapi, à Istanbul, mais Idil ne l'avait jamais visité. Elle peinait à imaginer qu'il soit plus luxueux que celui d'Ishak Pacha, rutilant de faïences multicolores, de miroirs et de tissus de soie. Plus les heures passaient, plus Idil parvenait à se persuader que ce qu'elle avait vécu n'était qu'un mauvais rêve. Se taire, oublier, survivre. Le message de Cortès avait été clair. Elle était la favorite. Elle devait se donner à cet être mystérieux qui l'avait choisi. Cortès avait raison. Elle était désormais l'unique. Entre les mains expertes des femmes au sérail, elle avait assez facilement repoussé cette petite voix qui lui susurrait qu'en griffant cette fille au visage d'ange, c'est elle, en réalité, qui lui avait tiré une balle dans la tête. Idil préférait penser au destin de Roxolane, cette fille d'esclave slave orthodoxe, devenue favorite de Soliman le Magnifique. Lorsqu'Idil quitta le sérail vers les chambres, elle ne put cependant s'empêcher de penser à la petite Amane. Où la fillette qu'elle avait croisée dans le bus avait-elle été emmenée? Ses tueurs l'avaient-ils exécutée comme les autres femmes? L'avaient-ils torturée pour qu'elle avoue un mystérieux secret? Ou jouait-elle sagement avec sa licorne, dans l'une de ses pièces avec des dizaines de nounous à ses ordres? Ces questions aussi, elle devait les oublier, pour l'instant. Idil enfila la robe qu'on lui avait préparée, une somptueuse takshita de taffetas rouge liseré d'or, serrée à la taille par une large ceinture, sertie de joyaux et enchancrée sur sa gorge d'un fin brouillard de dentelle. Jamais, même dans ses rêves de princesse les plus romantiques, elle n'avait espéré glisser son corps dans une telle œuvre d'art. Ultime détail, Idil glissa autour de son cou le collier de cuivre orné d'une croix, celui que la petite Amane lui avait confié. Comme si ce seul talisman suffisait à exorciser ses scrupules. Au fond, pensa-t-elle une nouvelle fois, elle était la reine, l'unique. Peut-être que sa première belle action de favorite impériale, après avoir épuisé Cortès de plaisir, serait de retrouver cette petite fille parmi les 366 pièces du palais, de plaider sa cause, de lui rendre le sourire, de la sauver. Elle attendit. Zeytin vint la chercher une heure plus tard. Lorsqu'elle se leva, pour la première fois, il laissa son regard traîner sur elle. Dans l'instant, Idil se sentit invulnérable.
« Vous allez lui plaire, » fit sobrement l'homme à la cicatrice.
« Je lui ai déjà plu, » répliqua sèchement Idil. Elle avait compris que ce type n'était qu'un sous-fifre.
Zeytin la fit entrer dans la chambre. La pièce était presque entièrement occupée par un lit profond surmonté d'un baldaquin dont les colonnettes étaient fixées à d'imposantes boules de cuivre.
« Idil, » fit Zeytin, « vous devrez respecter un commandement, un seul. Ne jamais regarder le visage de Cortès. Alors, vous resterez sa favorite, la Malinche. Il vous couvrira d'or. »
Il toucha les édredons du lit.
« Attendez Cortès ici. Lorsqu'il s'approchera, il ouvrira le judas de la porte pour vous observer. C'est le signal. Ce sera à vous de jouer, de le séduire, de lui faire comprendre que vous l'attendez. » Dans une position où il pourra vous aimer sans que vous puissiez le voir. Alors il entrera et vous prendra. »
Idil hocha la tête. Elle attendit de longues minutes. Même si elle essayait de ne pas trop s'interroger sur les motifs de l'étrange rituel imposé par Cortès, les hypothèses finissaient par se mélanger dans sa tête. Infirmité physique? Vieillard dégoûté par sa propre image? Fantasme d'un pervers? Célébrité souhaitant conserver l'anonymat? Pourquoi pas, après tout, s'amusa Idil, baisé dans un palais par une vedette de la télévision. Idil observa les peintures au mur, principalement des fresques orientalistes, représentant des visions occidentales et fantasmées des harems. Des femmes nues, lascives et grasses, passant leur journée entre le sérail et le hammam comme de gros chats paresseux. Était-ce cela la vie des courtisanes? Elle chassa une nouvelle fois l'image des cadavres de filles qui revenaient la hanter sitôt qu'elle fermait les yeux. Cortès était un mafieux, un tueur sans scrupules. Et alors? Elle avait vu au cinéma ce film, Casino. Robert De Niro, lui aussi, était un assassin. Et pourtant, Sharon Stone, sa maîtresse favorite, le menait par le bout du nez. C'était une histoire vraie. Elle se passait à Las Vegas et... Un chuintement.
la fente glissa, le judas s'ouvrit. Immédiatement, Idil se retourna. Elle avait répété longuement la scène dans sa tête. Elle prit son temps, lascive. Elle était l'unique désormais. Plus de concurrence. Cortès allait comprendre sa souffrance. Idil s'enroula de longues minutes autour des barres de cuivre du lit à baldaquin. Son regard en amande, maquillé au henné, passa sans jamais s'arrêter sur le judas. Au-dessus, au-dessous. Profite, Cortès. Profite de mes yeux verts. Idil avait déjà fait l'amour, souvent, presque toujours en sortant de boîte de nuit. Elle pouvait y choisir le garçon qu'elle voulait et partir avec lui, comme dans un supermarché, où elle se serait servie gratuitement. Mais aujourd'hui, elle s'étonnait de sa sensualité torride. Était-ce d'avoir frôlé la mort ? Cortès était-il à ce point malin ? La takshita glissa, centimètre par centimètre. Idil l'accompagnait en ondulant du bassin. Lorsque la robe tomba, Idil demeura nue une fraction de seconde avant de saisir le drap de soie blanc et de s'enrouler dedans. La lumière tamisée accentuait le grain de sa peau mate. Seulement vêtue du linge de soie, Idil se lova à nouveau contre la barre de cuivre. Le contact du métal froid la fit frissonner. Idil se frotta au tube glacé, sentant déjà le plaisir monter en elle. Le drap glissait, remontait, dans un jeu savant de cache-cache. Soudain, elle fit tomber le drap et se jeta sur le lit, lançant les bras loin devant elle, comme si elle nageait dans les épais édredons. Idil écarta les jambes, couchée sur le ventre. Elle attendit. Son cœur battait à en déformer sa poitrine. La porte s'ouvrit. Idil colla son visage sur le coussin et l'enfonça dans les plumes. Ne prendre aucun risque. Elle entendit derrière elle le bruit d'une ceinture qui tombe, le frottement d'un tissu. Quelques pas. Un infime courant d'air. Le sexe la pénétra, soudain, violent. Idil se retint, mordit l'oreiller. Cortès, sans retenue, allait et venait en elle. Deux mains musclées se posèrent sur ses hanches. Cortès était une bête furieuse. Elle n'avait jamais connu cela. Idil cambra le dos, leva la tête de l'édredon, à bout de souffle, fixant le mur devant elle. Ne surtout pas se retourner. Idil suffoquait de la douleur et du plaisir qui la submergeaient, impuissante, vivante, tellement vivante. Des ombres dansaient sur la boule de cuivre, ceux de deux corps à l'unisson. Qui était cet homme ? Idil ne devait pas se poser la question, jamais. Ses yeux se posèrent sur la boule de cuivre du baldaquin. Elle voyait dans la sphère de métal son visage déformé, devinant le corps de l'homme sur elle, haletant. Elle était belle, l'unique. Le plaisir brouillait ses pensées. Elle se contempla encore, puis leva la tête. Elle devait détourner les yeux de cette boule de cuivre, ce miroir posé comme un piège à la hauteur de ses yeux. À tout prix. Non, Idil. Mon Dieu. L'espace d'une fraction de seconde, dans le reflet du cuivre, Idil aperçut le visage de Cortès. Elle comprit instantanément le sens de ses précautions diaboliques. Elle sut dans l'instant pourquoi elle ne devait pas dévisager son amant. Quel lourd secret il dissimulait. Idil reposa les yeux sur l'édredon. Cortès, tout à son plaisir, n'avait rien remarqué. Idil força un peu sa respiration. Alta poussa des râles dont elle calcula le crescendo. Cortès accélérait encore en elle. Il était le meilleur amant qu'elle ait jamais connu. Elle sentait le plaisir monter inexorablement à présent. Les mains de Cortès caressaient son dos, se glissaient sous ses seins, remontèrent plus haut encore, se crispèrent sur ses épaules. Idil cria. Quelque chose basculait. Une sorte d'alerte s'alluma en Idil, une alarme que son cerveau, tout au plaisir, refusa d'écouter. Soudain, les deux mains de Cortès se refermèrent sur le collier pendu à son cou, le collier de la petite amane. Cortès était plus fort qu'elle. Presque tout son corps pesait sur son dos. L'homme continuait d'aller et venir en elle, pendant que ses mains nouaient sur sa gorge le cordon de cuir. Idil suffoquait. Son cerveau, seconde après seconde, n'était plus irrigué. Son esprit s'envolait, elle perdait conscience. Elle regarda une dernière fois son destin dans la boule de cuivre. L'homme crispa les doigts, lui serrant la trachée avec le cordon mortel jusqu'à la traversée, et, brusquement, juste au moment où il sentit que la vie venait de quitter Idil, il arracha le collier. Nord de la Mésopotamie, 4371 avant Jésus-Christ, automne.
Déshabille-toi, Ganache, t'en prie.
Bilic insistait. Le jeune homme regarda longtemps sa sœur, il la trouva belle. Elle portait la robe blanche de laine fine, transparente comme une toile d'araignée gouttelée de rosée. Personne n'en avait jamais revêtu de plus légère. Le tissu caressait sa peau avec la douceur d'une fleur d'abricot. Rien à voir avec les peaux lourdes que sa sœur portait depuis qu'elle était née. Les dieux devaient apprécier.
« Retire ta robe, Ghana !»
La jeune fille hésitait. Inquiète, elle observa le site, la cascade, le torrent, les pierres humides, les lianes nouées entre les arbres. « Les dieux me regardent ?»«
Oui, Ghana, ils te regardent. Ils voient tout, je te l'assure. »«
Pourquoi désirent-ils me voir nue ?»«
C'est une épreuve, Ghana. Ils t'observeront et décideront si tu leur plais. »
Elle minauda. « Et si je leur plais ?»«
Alors, si les dieux le veulent, peut-être leur plairai-je moi aussi. Peut-être notre famille leur plaira-t-elle. C'est notre chance. C'est important, Ghana, de plaire aux dieux. »
Ghana ne bougeait pas, craintive. Son frère l'avait emmenée loin du village. Ils avaient remonté la rivière dès le lever du soleil. Depuis des lunes, elle ne s'était pas autant éloignée de sa tribu.
« Je ne sais pas. Avo dit qu'il faut se méfier des dieux. »«
Grand-père est trop vieux, il ne comprend rien. Il est jaloux des dieux. »
Bilic se tut un instant. Devant eux, un rayon de soleil traversait la cascade. Un minuscule arc-en-ciel dansait devant l'eau qui tombait, scintillante, comme une pluie d'or.
« Ghana, regarde les couleurs danser dans l'eau. Observe les étoiles de la cascade. Ce sont celles du ciel, Ghana. Les mêmes que celles qui recouvraient le sol de la montagne. Les étoiles froides, tu te souviens ? Déshabille-toi, Ghana. Les yeux de notre père brillent parmi ces étoiles. Il te verra, Ghana. Il sera fier. Lui aussi est un dieu maintenant. »
Bilic souriait étrangement. Ghana avait du mal à suivre. La vie était tellement plus simple dans la montagne. Son regard se perdit dans l'arc-en-ciel ondulant devant le torrent qui se brisait en mille éclairs. Ghana mit un long moment à prendre sa décision. Qui était-elle pour refuser de se montrer aux dieux ? Qui était-elle pour refuser de se montrer à son père ? La robe de laine fine tomba. Elle ne portait plus sur sa peau que le collier que son frère lui avait offert. « Le collier des dieux », lui avait-il affirmé. Un simple rond de métal sur lequel étaient gravés deux traits, croisés, comme ceux que son père formait avec deux branches ou traçait sur les pierres pour ne pas se perdre dans la montagne. « Le signe des dieux », lui avait-il murmuré. Et elle ne devait jamais le perdre. Ghana resta longtemps sous l'eau de la cascade. Elle aimait cela. Elle caressa longtemps ses longs cheveux qui tombaient jusqu'à ses reins, la toison drue de son pubis. Elle adorait sentir ses cheveux et ses poils lisses, brillants, comme des pétales de fleurs après une averse.
« Viens, » dit simplement Bilic, « ne te rhabille pas et suis-moi. »
Bilic prit sa sœur par la main et l'emmena jusqu'à une cabane dissimulée dans la forêt en contrebas de la cascade, quelques branches et un toit de fougères.
« Les dieux ont préparé des cadeaux pour toi, Ghana. »
Ghana observa, surprise, la cruche d'argile posée sur le sol tapissé de peau.
« C'est la boisson des dieux, » précisa son frère. Après avoir apprivoisé les plantes, les dieux ont percé leur mystère. Elles donnent la force et la chaleur. Bois, Ghana, bois. »
Ghana avait entendu parler de cette boisson. Elle avait vu des hommes cueillir ces fruits rouges qui poussaient en grappes épaisses, presser leur jus, l'enfermer dans des écorces de bois liées entre elles. Ghana n'était pas loin de penser qu'il s'agissait d'une boisson réservée aux dieux, que les hommes ne devaient boire sous aucun prétexte. C'est également ce que prétendait Avo. Son grand-père racontait que ce breuvage était une ruse des dieux pour réduire les hommes en esclavage. Bilic approchait déjà la cruche.
« Bois, Ghana, fais-moi confiance, bois. Les dieux te regardent. Si tu leur plais, ils t'aimeront. »
Lorsque Ghana se réveilla, elle ne se souvenait plus de rien. Elle était nue, allongée sur les peaux dans la cabane vide. Combien de temps pouvait s'être écoulé depuis qu'elle avait trempé ses lèvres dans la boisson des dieux ? Sa tête semblait sur le point d'exploser, comme si un orage s'était déclenché sous son crâne et tonnait encore, depuis des heures. Des traces sombres et collantes souillaient son cou et sa poitrine. Elle avait vomi sur elle. Elle se recroquevilla, muette d'effroi. Ni son mal de tête, ni ses souillures ne l'inquiétaient vraiment. Sa peur effroyable n'avait rien à voir. Elle était autre, monstrueuse, terrifiante. Du sang coulait entre ses cuisses. Du sang coulait sans que Ghana porte la marque d'aucune blessure.